J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée.
Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ?
Oui, pourquoi ?
Parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC. RMC Story, toujours avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Pierre-Edouard Magnan. Et dans cette dernière partie, on va s'intéresser au grand retour des Michel Sardou et Michel Polnareff. Une tournée pour le premier, un nouvel album pour le deuxième. Est-ce que vous trouvez ça formidable ou pathétique? Est-ce que vous êtes plutôt team Sardou ou team Polnareff? On attend vos réactions, vos messages au 32-16. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. On a du nouveau dans le dossier Revolut, cette banque qui refusait d'indemniser une victime de fraude à la carte bancaire. Et puis il y aura bien sûr les immanquables, pardon, oui. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis peut-être, Rémi, que pour la dernière fois de notre vie, on ouvrira le coffre RMC.
Oui, parce qu'à l'approche de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Et si vous êtes sélectionné, alors vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le visioprojecteur portable. À ce moment-là, vous aurez le choix, vous gardez ce très beau cadeau ou alors vous y renoncez et vous pouvez ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Pour ouvrir ou tenter d'ouvrir le coffre RMC, vous envoyez le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, voilà. Midi.
Mais voilà, mais bien sûr, c'est ça qu'on veut. On va parler de quoi maintenant dans Estelle Midi ?
De féminisme.
Non, du retour des Michel. Michel Sardou, 75 ans. Michel Polnareff, 78 ans. Michel Sardou qui repart en tournée l'année prochaine. Les places se sont envolées en quelques heures. Et Michel Polnareff qui lui sort un nouvel album. Les papis de la chanson française font de la résistance et s'offrent une seconde jeunesse. Mais qu'est-ce qui les motive, Rémi ?
Ah bah, c'est le gros. En tout cas, on va commencer par Michel Sardou. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 75 ans, sera donc de retour sur scène à partir du 3 octobre 2023 avec deux concerts à la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe, en mars 2024, et certainement une tournée d'été qui suivra. Oui. Pourtant, tu l'as dit, l'artiste jurait déjà qu'il montait pour la dernière fois sur scène en 2017. Alors pourquoi revient-il ? D'après lui, c'est sa femme, Anne-Marie Perrier, qui l'a convaincu de revenir pour cette tournée d'adieu ou pas, qui portera le nom de l'un de ses plus grands succès qu'on vient d'entendre, Je vais t'aimer. Autre Michel de retour, tu l'as cité également, Michel Polnareff, 78 ans. L'artiste qui sort aujourd'hui un nouvel album baptisé Polnareff chante Polnareff, où il revisite certains de ses titres en piano voix.
C'est pas tout à fait un nouvel album.
Non, puis bon, non, pas sur la marchandise. Il entamera donc une tournée à travers les Zéniths qui débutera le 24 mai avant de s'achever le 8 juillet 2023. Et tu l'as dit, ça marche, ça cartonne, même pour Michel Sardou par exemple.
Mais bien sûr.
Alors que la billetterie n'a ouvert que mardi dernier, ce sont près de 100 000 billets qui ont été vendus
places, en 8 heures
pour les concerts de Nice et de Toulon.
Perico Légas, ses retours sont-ils pathétiques ou formidables ?
C'est la meilleure nouvelle que j'ai attendue depuis une dizaine d'années sur l'actualité en général. C'est une lueur d'espoir, c'est une bouffée de fraîcheur.
Oui, c'est
ça
la
conseil. Ça va enfin remettre de la... Parce que là, aujourd'hui, la somme des percussions cacophoniques qui constituent le désarroi et la déchéance de la musique française...
Oh mon Dieu.
Sur les ondes, c'est... Enfin, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, nous allons avoir du son français qu'on va pouvoir comprendre.
Du son français ?
Oui, non, mais vraiment, c'est la belle France. C'est la libération de la musique française.
C'est du son français.
C'est la libération de la chanson française qui est annoncée. Je les attends comme des messies. Et je ne sais pas quand je vais mourir, mais au moins j'aurai eu le bonheur de revoir ces deux héros de la culture française reprendre le dessus et remettre la jeunesse sur le droit fil. C'est une voilà, c'est eux la jeunesse, c'est eux l'espoir du pays et je me réjouis de leur retour. Et vous allez voir, non, parce que vous allez voir le succès qu'ils vont avoir.
Ah mais ils ont.
Ben voilà. Donc j'ai raison parce que je suis politiquement majoritaire. Vous avez juridiquement tort.
Non mais il y a aussi un truc, je pense qu'ils ont du succès parce que c'est quand même deux vieux grincheux.
Ah mon Dieu.
C'est deux immenses talents.
Mais ils en ont rien à faire de rien. Ils balancent des horreurs sur toutes les chaînes infos. la dernière fois, comme Michel Sardou qui a dit je déteste le vélo, je vais me faire un cycliste. Bon, ouais. C'est hallucinant. Ils ont su rester eux-mêmes, ils se foutent de tout, et je pense que ça aussi, ça plaît.
Sardou engueule tout le temps tout le monde, et Paul Naref vous dit je vous emmerde, et puis vous m'aimez bien, donc je vous emmerde encore.
Exactement.
D'ailleurs, on le voit avec l'album qui sort, que fait des machins. Après, d'abord, c'est des artistes, donc ils ont des droits que les autres n'ont pas. Enfin, je veux dire, là-dessus, moi, je suis toujours, on le sait bien, on parle toujours des artistes entre la personne. Un artiste, d'abord, il peut dire adieu toute sa vie et revenir à chaque fois, et tout le monde trouve ça très bien.
C'est ce qu'a fait Aznavour.
A fait ça pendant toute sa vie.
Voilà. C'est quand même pas,
Oui, évidemment, c'est mais le personnage est ce qu'il est. C'est que les artistes ont quand même un certain nombre de droits. Si un homme politique disait, quand un homme politique sort le même connerie que peut sortir un artiste, il se fait tomber dessus par nous les premiers. Il y a une tolérance pour les artistes. Je veux dire, s'imaginer qu'un homme politique monte son cul sur son affiche électorale, ça poserait problème. Paul Naref l'a fait sur son album et le refait à nouveau. C'est devenu iconique.
Oh bah, 78 ans, il va peut-être pas le refaire. C'est les fêtes de l'époque.
Il n'existe pas. Donc voilà. Et puis après, il faut reconnaître qu'ils font le plein. Enfin, je connais beaucoup d'artistes qui aimeraient bien vendre en 2 ou 3 jours 100 000 billets. J'allais dire, professionnellement, ça force le respect. Moi qui ne suis pas un artiste.
Mais leur auditoire, c'est un auditoire. Vous voyez, ce pas des jeunes de 12-14 ans qui ont aussi un petit peu d'argent, tu vois.
Ma fille est une. Je ne sais pas si je pourrais en être fière. Ma fille est une passionnée du lac du Connemara. Elle adore le lac du Connemara.
Mais vous savez que. Non,
et moi, dans ma voiture, régulièrement, elle me dit tu mets en Bluetooth le lac du Connemara. Donc.
La dernière fois, mon fils s'intéressait.
Merci pour elle. Elle est à l'école, mais on fera le podcast.
Non, mais quand vous faites des soirées, par exemple, et vous invitez plein de gens, il y a des enfants qui arrivent, et vous rendez compte que, à 15 ans, ils connaissent Indochine par cœur, ils connaissent Renault, ils connaissent Sardou,
ils connaissent Goldman.
Et c'est incroyable. Donc finalement, même la nouvelle génération n'a pas remplacé l'ancienne.
Non.
Alors, c'est totalement faux. En tant que des inepties depuis tout à l'heure, chanson française va très très bien. La musique électro-française se porte très très bien au niveau mondial. Alors, est-ce que Team Sardou ou Team Paul Naref? Alors, moi, je vais vous répondre. Moi, je suis Team Michel Jonas. Voilà, ma vraie team, c'est Michel Jonas. Mais si je dois.
Pour danser en soirée, il y a mieux.
Michel Jonas. Il n'a jamais arrêté, mais quel interprète. Chaque fois qu'il est en concert, je vais le voir.
Ah, la boîte de jazz.
Il est là, Michel. Merci. Il l'affiche en plus derrière Estelle.
On n'a pas de nouvelles de Michel Thor.
Non,
parce qu'on n'en parle pas.
Moi, je trouve qu'on ne peut pas
les même vérifier où elle en est.
Moi, je trouve ça pathétique.
Je ne sais pas si elle vit toujours.
Je vérifie tout le temps.
Michel Jonas, dans sa boîte de jazz.
Elle chante dans les
plus grandes chansons, la boîte de jazz. En sortant la boîte de jazz.
Ah, mais il y en a fait tellement de grandes chansons.
Alors, Michel.
Entre Michel Sardou, je suis.
Que devient Michel Thor? Ça, c'est déjà le premier truc.
Juste.
Là, aujourd'hui,
elle
75
chante
ans.
Dans les églises. Elle chante admirablement bien. Elle n'a pas perdu au niveau de la voix. Je suis une fanatique des chansons de Michel Sardou. Je connais même des chansons qu'aucun de vous ne connaît. Mais cela dit, jamais j'irai le voir en concert. Parce qu'il fait ça pour le fric, ça m'énerve. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas son public. Mais que sur scène, c'est pas totalement lui qui fait le show quand même. Il est quand même très 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 entouré. Moi j'ai pas
Claudette
envie.
Quand j'y suis allée, est-ce que vous parlez d'un truc que vous ne connaissez pas? C'est quand même terrifiant. Vous n'êtes pas allé au concert et vous expliquez comment c'est.
J'ai des copines comme mon âge qui sont complètement fanatiques.
Tant mieux pour elle, mais j'y suis allée. Ça c'est sûr qu'il sourit pas et je veux dire, c'est pas la gaudriole.
Sardou, en termes d'humain d'ailleurs, comme Paul Naref qui a été immonde avec des gens comme Obispo.
On n'attend pas de Sardou qui nous jette des fleurs dans le public.
Moi j'ai besoin que les gens soient humainement. Ah oui, t'attends qu'ils t'engueulent.
J'adore.
Non, et ben moi j'ai besoin qu'humainement, il y a un vrai bonhomme avec des valeurs. Et ces deux-là, ils sont pas.
Il a des valeurs, c'est les siennes.
C'est les siennes.
Malheureusement, tous les grands artistes ne sont pas des gens bien.
Ils ont fait du bien à la France.
Mais c'est des grands artistes quand même.
Et Michel Thor continue à faire des concerts puisqu'elle sera à R sur la Lys dans le Pas-de-Calais le 12 février
2023.
Elle fait un thé dansant avec la Lys.
Excusez-moi, mais quand tu commences à faire des concerts à 16h, c'est quand même que t'es plus près de la fin.
Allez voir Michel Jonas.
C'est pareil qu'avec Périco, on a des places.
C'est après la sieste. Soyez indulgente un petit peu, Estelle.
On s'adapte à son public.
Il y a des gens qui font la sieste et qui dînent à 18h, 16-18h.
Regardez Périco, par exemple.
Après, ça marche, leur histoire. Ils ont raison de le faire. Les places s'envolent, ils ont raison de le faire. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. Mais c'est pas les mêmes, parce que Paul Naref est devenu la caricature de lui-même. La preuve, Paul Naref chante Paul Naref. Franchement.
Oui, mais en même temps, c'est son. Est-ce qu'on achètera un nouvel album de Paul Naref? Moi, je préfère qu'il chante du Paul Naref.
Il a sorti un album en 2018. Qui s'appelle Enfin, point d'exclamation, personne n'a jamais entendu parler.
C'est pour ça que je préfère qu'il chante du Paul Naref. Ouais. Je sais ce que je vais écouter.
Oui, c'est pour ça qu'il a décidé de faire ça du coup.
Oui, j'imagine.
La dernière fois qu'il a fait une tournée, les musiciens n'étaient pas bons du tout. C'était pas du tout des musiciens français, ils ne connaissaient pas Paul Naref, ça s'est mal passé pour lui.
Mais vous bossez à Rock'n'Folk ou quoi?
Non, mais, enfin, je suis informée.
Elle est critique
quand même.
Musicale,
elle non, mais elle aime pas la France.
C'est ce que j'ai dit.
Elle aime pas la France.
Taisez-vous.
Va te faire voir.
Taisez-vous. Quoi. Je voudrais qu'on écoute Eric, qui nous appelle de Montélimar. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour, Estelle. Bonjour à tout le monde.
Eric, je sens que vous êtes heureux du retour des Michel.
Ah, mais plus que heureux.
Mais bien sûr.
Plus que heureux. Et que les personnes qui n'aiment pas Sardou, qui se taisent.
Et qui quittent la salle, je suis d'accord.
Ah oui. Alors j'ai eu la chance de le voir sur le concert de Nadia.
Mais moi aussi,
donc, 2017. Donc j'étais bien triste une fois fini.
Mais oui.
Et puis là, quelle chance de repartir le voir au mois de novembre prochain.
Vous avez vos places, Eric?
Pardon?
Vous avez vos places?
Oui, ça a été chaud. Hein. Ça a été très très chaud. Ça a été très très chaud. Et j'amène mes enfants de 12 et 20 ans.
Mais bien sûr. Et ils aiment Sardou ou pas?
Ah, ils adorent Sardou. Ils adorent Sardou.
Et alors, Eric, ce que vous aimez chez Michel Sardou, est-ce que c'est que ses chansons ou est-ce que c'est aussi le personnage Michel Sardou?
Ah, mais c'est un tout. C'est le personnage et les chansons. C'est merveilleux, quoi.
Mais bien sûr. On ne peut pas séparer.
Ça va avec, en tout cas.
Oui, il a été immonde avec Louane, la petite Louane, quand elle avait sorti la chanson Mes chers parents, je sais pas. Il avait été immonde avec elle, alors qu'elle lui a fait rentrer des royalties pas possibles.
Il avait
été
immonde parce qu'il avait dit qu'il n'aimait pas ses
chansons. La petite gamine avait 19 ans, il l'avait totalement tué sur place.
Il le dit.
Mais il le dit pas, il est un peu élégant, un peu d'élégance.
Mais on ne dit plus rien.
Une gamine de 19 ans qui a perdu ses deux parents. Attends, c'est bon, quoi. Tu fais un peu attention, quoi.
Il le savait peut-être pas.
Mais Eric avait.
Oui.
Bon, voilà.
Mais qui fait son charme.
Mais je suis d'accord. Mais bien sûr. Oui. Bon, en tout cas, Eric, vous avez vos places et vous avez bien de la chance pour aller voir Michel Sardou.
Oui. Si je peux m'embrasser mes trois garçons.
Bah, voilà. Bien sûr.
Voilà, Hugo, Arthur et Alban.
Ah,
voilà.
Vous avez eu du mal sur le prénom du troisième. C'est peut-être pas de lui.
Non, il est Michel Sardou.
Merci.
Plus, Alban, il a 12 ans, l'envoyer. Ah, super.
Eh ben génial.
Et il écoute du Joule aussi, donc vous voyez, on peut
écouter du Joule et du Sardou, mais bien sûr. Et vous avez entièrement raison.
Non,
merci
non,
beaucoup,
on peut
Eric.
Pas écouter du Joule.
Pour témoignage aussi, on peut écouter du Joule aussi, évidemment. Emmanuel,
mais on peut pas.
Mais il écoute personne, c'est incroyable.
Ah si, j'écoute beaucoup de choses. J'ai le droit de pas aimer Joule quand même.
Vous dites, enfin, vous écoutez quoi?
J'écoute des tonnes de choses que vous n'écoutez pas à l'international aussi. Mais j'écoute beaucoup de choses.
Ça arrive à Dijon, oui.
Oui, ça arrive à Dijon, mais
c'est un peu l'international.
Vous savez la chanson cachée des CD? Vous savez, ça c'était il y a 20 ans, les gens vous disaient ouais, j'écoute la chanson, mais personne ne la connaît, parce que tu comprends, elle est à la fin du CD, il faut vraiment écouter toutes les chansons. C'est, voilà. Ou j'ai acheté un CD import à Londres que personne n'a.
Ouais, mais c'est vrai.
Ça, c'est Emmanuel
Lancourt. Tout à fait.
Est-ce que quelque part, quand même, Péricot, ça fait plaisir pour les seniors, finalement, ces grands retours?
Ah, bah oui, c'est pour Péricot, celle-là.
Non, mais aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, les seniors sont méprisés en France, on n'en fait pas assez, etc. Ils sont virés dès qu'ils ont 60 ans. Et là, vous avez deux mecs qui ont 75, 78 ans qui reviennent et ça déclenche les passions. C'est quand même un bon signal.
Alors, ils incarnent au sens littéral du terme d'incarner la plus belle période des Trente Glorieuses.
Mais oui.
Voilà. Ils sont le souvenir d'une France. Sociologiquement et politiquement, ça commence sous De Gaulle, Pompidou, on a fait des progrès sociaux. Quand je dis c'était mieux avant, c'est bien mieux aujourd'hui, ce niveau-là. Mais la société française, l'équilibre de la société française et le niveau culturel des masses étaient totalement différents. C'était pas la société de consommation. Voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était une France qui se portait bien. Et en tout cas, c'est une France qui a laissé un souvenir impérissable à cette génération. C'est une époque où le travail était reconnu et où finalement, on gagnait plus en travaillant plus, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et au niveau des loisirs, et la sensation de bonheur était beaucoup mieux répartie. Et plus générale qu'elle n'est aujourd'hui. Il y avait moins de gens à l'époque qui disaient qu'ils souffraient. Et ceux qui étaient malheureux avaient une distance par rapport à leur malheur. Et Sardou, et en plus, il y en a un qui est de droite, l'autre qui est plutôt de gauche. Il y en a un qui est révolutionnaire, l'autre qui est conservateur. Quand je dis gauche, c'est la gauche chienlit. C'est-à-dire, c'est la vraie gauche. C'est-à-dire, les valeurs, on s'en fout. Voilà, il va aux États-Unis, c'est un mec sans scrupules. Voilà. C'est la révolution. C'est le rejet des valeurs. Ben, pour moi, c'est une façon. Les gens de gauche, moi, je me souviens, la gauche était pour Polnareff. Et Sardou est un affreux réac.
Ah, bah, total.
On disait facho, machin, conservateur. Les paroles de Philippe
Delaine. Ça fait encore.
Les paroles de Lannoy n'étaient pas forcément toujours ce qu'il y avait de plus moderne. Enfin, ils incarnent, voilà, une certaine idée de la France.
Il a fait moins, on sait.
Voilà. Oui, c'est vrai, hein. Il a fait moins.
Et en plus, ce sont de vrais grands talents. Et certains de leurs tubes sont inscrits dans la mémoire nationale. Et certaines de leurs chansons sont des monuments historiques. Et donc, la France aujourd'hui qui a besoin d'un sursaut. château, elle retrouve la dignité dans le retour de ces deux hommes. Voilà.
C'est quand même que tu t'éclates.
C'est
à la
si joliment dit. Nous sommes avec Sabrina. Sabrina, elle a 42 ans et Sabrina, elle est fan de Michel Sardou. Bonjour Sabrina.
Team Sardou. Bonjour.
C'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou, Sabrina?
10 ans déjà,
d'accord. Ben voilà, c'est bien d'avoir des gens aussi qui écoutent des chansons qui ne sont pas non plus les.
Vous connaissez la maison de vacances de Sardou?
Oui.
Ah bim, voilà. Tiens.
Voilà. Ça, non, voilà. Elle n'est pas très connue.
Elle dit que Sabrina est 10 ans et elle connaît. Ouais. Sabrina, vous avez vos places pour le concert de Sardou?
Avec mes collègues, on hésite encore sur les deux dates qu'on a à Lyon. Ouais. Et on se met vite d'accord pour qu'on puisse y aller, parce que avant qu'il n'y ait plus de place. Parce qu'il y a beaucoup de dates qui sont déjà complets et.
Vous viendrez à Dijon, moi. Tous mes amis ont fait ça, la dernière tournée de Sardou. Ils sont tous venus le voir à Dijon.
Et Sabrina, qu'est-ce que vous aimez chez Michel Sardou? Parce que voilà, vous êtes jeune, vous avez 42 ans. C'est pas forcément exactement votre génération. Et pourtant, vous êtes fan.
Moi, j'aime déjà ses chansons, même s'ils sont déjà, comme dit Périgo, ils sont pas récentes. Mais ils parlent d'actualité. On peut les écouter maintenant. Ça colle à l'actualité. Que ce soit le sexisme ou autre chose, et j'aime Sardou en étant sa personne. À chaque fois qu'il passe à la télé, moi je le regarde parce que il dit les choses qu'il pense. Il dit, il tourne pas autour du pot pour 5 millions. Il dit, il aime pas. Bon, c'est des choses. Et moi j'aime ça.
Et c'est vrai qu'on a du mal à dissocier aujourd'hui Sardou du personnage qu'il est devenu.
Il faudrait qu'il soit chroniqueur ici.
Ah bah, mais j'adorerais.
Face à Périco, ce serait drôle.
Je lance un appel, mais si on pouvait recevoir Michel Sardou ici, je serais la plus heureuse, que je vous dise. Merci Sabrina d'avoir été avec nous. Pour l'instant, on n'a que des aficionados de Michel Sardou, mais Christine, qui nous appelle de Tripoort en Seine-et-Marne, elle est fan de Michel Polnareff. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous, Christine.
Pardon?
Merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Polnareff, comment vous dire? J'en suis fan depuis l'adolescence et je n'ose même pas vous dire mon âge, puisque
j'ai... Bah, je l'ai, 63 ans.
Pas jeune, hein.
Balancé. Polnareff, pour moi, c'est... le chanteur français, le plus grand chanteur français.
Eh oui, madame. Eh oui,
c'est... Merci, Périgo.
vous êtes normal, vous êtes quelqu'un de normal.
J'étais adolescente quand il est parti, donc malheureusement, je n'ai pas pu le voir avant. Mais dès son retour en France en 2007, voilà, j'ai été une des premières à prendre une place. Je l'ai vu, j'étais là. J'ai vécu aussi 2016, hein, bien évidemment.
Évidemment.
Et puis là, j'ai mis place pour le 2 juillet à l'Accor Arena.
Ouais.
Et voilà, l'ouverture, la présence a été faite mardi matin à 10h. J'étais devant l'ordinateur et j'ai la chance et l'avantage d'avoir eu mes places. Voilà, pour moi, c'est un bonheur.
Mais Christine, vous dites pas quand même, pardon, je vais l'avocat du diable, voilà, Michel Polnareff, il a 78 ans, il sort un album, Polnareff chante du Polnareff, bon, bah, il a peut-être plus trop d'inspiration, et que finalement, c'est presque un peu, pathétique, on va dire, et que vous n'allez pas forcément retrouver les souvenirs que vous aviez quand vous étiez allé le voir en concert il y a 30 ans, par exemple.
Non, c'est pas pathétique. Moi, je suis une fan absolue. Hein. J'ai même pas de mots pour l'exprimer. Je fais partie de ces moussaillons depuis des années.
Non, c'est mignon.
Michel Polnareff, son surnom, c'est l'amiral. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Voilà. Donc, non, c'est pas pathétique. Pour moi, c'est un bonheur absolu. Et je serai là le 2 juillet devant l'Accor Arena. Et pour moi, je ne sais même pas. C'est une joie. C'est une joie absolue.
Christine, tout ce que vous dites, moi, il y a un chanteur, vraiment, pour qui je me mettrais comme vous, je ne sais pas quelle heure, 4h du matin, devant l'ordinateur pour choper une place quand il reviendra sur scène, si un jour il revient, c'est Jean-Jacques Goldman. Là, pour le coup.
Ah, d'abord, il n'est pas parti.
Là, je serai là.
Puis,
il a arrêté les concerts et la musique depuis longtemps. Mais non, il ne reviendra pas. Mais là, pour le coup, je serai là.
Sur Polnareff, il avait déjà 78 ans, il y a 50 ans. C'est un être intemporel.
Oui.
Et surtout, ce que je voudrais dire, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Sardou, bien sûr, est un grand talent, mais c'est quand même de la musique de variété pour retraiter du troisième âge dans l'été dansant.
Oh.
Alors que,
mais
c'est, lui, il est classé comme ça, et puis il le joue, et ce côté un peu beauf qu'il entretient, voilà. Polnareff est un vrai génie musical. C'est, alors, pas dans la catégorie d'un Brassens ou d'un Brel. C'est un vrai génie, c'est un grand artiste musical. Sa musique, sa mélodie, ses paroles, voilà, c'est, ce sont des chefs-d'œuvre artistiques, c'est un peu le Mozart de la variété française. Et on n'a jamais retrouvé ça. On n'aura plus jamais ça. C'est
mais,
le dernier.
Bah si, non, mais dis pas ça.
Et vous mais non, que... mais c'est des nains.
Attends,
des
nains. On n'a pas écrit pendant 28 ans, Paul Narraz.
Et quand besoin.
Pascal Obispo, qui est un fan absolu, a fait une chanson, il l'a envoyé bouler, mais même tout un spectacle.
Et
Obispo lui a dit, alors là, j'ai pris la notation, Obispo lui a dit, mais moi, je veux bien qu'on travaille ensemble. Et là, il a dit, Paul Narraz, ça revient à proposer à Einstein de terminer l'énoncé de sa théorie sur la relativité. J'ai travaillé avec les plus grands, il n'en fait pas partie.
Mais c'est extraordinaire.
Mais
c'est ça qu'on aime aussi.
Faut
juste, Perico, oui, je voulais vous signaler quand même que Paul Narraz avait repris Joule au piano.
Oui, oui, tout à fait. Oui, mais non. Oui. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux d'ailleurs, mais bon.
Ça, c'est, c'est un autre sujet. En tout cas, merci Christine d'avoir été avec nous. Voilà, Christine, archi fan de Michel Paul Narraz. Alexandra nous appelle de Dunkerque. Bonjour Alexandra.
Oui, bonjour Estelle.
Alors vous êtes fan des deux, comme ça, pas de jaloux.
Ah, mais moi, j'aime les deux, moi. J'avais été le voir il y a quelques années, Michel Paul Narraz. Et là, j'ai réussi à avoir mes places pour Sardou à Lille au mois d'octobre.
Ah, en octobre prochain, dans un an.
Oui.
Ah oui.
Et j'ai déjà réservé mon hôtel aussi.
S'ils sont
oui, carrément. Mais c'est quand même incroyable cet engouement. Ouais. Je vous sens très dubitatif, Pierre-Edouard.
Ah non, plutôt impressionné. J'ai du mal. Enfin, je suis pas très sensible au phénomène de femmes, mais je trouve ça toujours très impressionnant. D'ailleurs, tout à fait respectable. Effectivement, je suis toujours qu'on prenne la place un an avant, on prend la chambre d'hôtel, on organise, qu'on entend ce que disait la personne d'avant sur Paul Narraz. Je trouve ça c'est fascinant, mais ça revient toujours. Il n'y a que des artistes qui peuvent créer ça.
Des monstres sacrés. Alors, j'attends qu'on en invente un autre. On n'en a plus. C'est des monstres. C'est des bêtes.
Ma chanson préférée, c'est Vladimir
Ilitch.
Ah,
bah,
bien sûr. Vladimir Ilitch.
Mais, Alexandra, vous avez 46 ans, donc c'est mon âge également. Est-ce que vous êtes également fan d'une plus jeune génération?
Franchement, je suis plus années 80 quand même.
D'accord.
Voilà.
C'est une femme des années 80.
Comme le dit si bien Michel Sardou.
Merci
Alexandra. Ouais.
Estelle, je peux vous dire que j'adore votre émission, mais je trouve que Daniel Riolo, on ne voit pas assez souvent.
Ah ben bah oui, écoutez, mais vous savez, il est très occupé d'ailleurs.
Ah, c'est des choses rares, on les cache.
Et puis,
Michel Sardou du foot.
Il coûte également très cher, et ça, il faut le signaler.
Ah oui, il n'est pas donné, Riolo, il n'est pas donné.
On va lui dire, Alexandra, mais évidemment qu'on adore Daniel, et que, mais là, il va aller au Qatar, vous voyez, donc on va le perdre.
C'est génial aussi, oui. Toute l'équipe est géniale.
Voilà. Bah, en tout cas, on transmettra à Daniel, qu'on adore évidemment, aussi tous les soirs dans l'after, hein, voilà, de 20h à minuit.
Excellent.
Merci, Alexandra. Vous avez plein de messages, Rémi.
Oui, de très nombreux messages. Il y en a quand même qui râlent un petit peu parce qu'ils nous disent aussi, bah oui, on revient à l'actualité en cette période d'inflation. Vu les prix des places pour les concerts, c'est très dur pour un certain nombre de fans d'y aller. C'est ce que nous dit Vincent. Bah, je vais regarder. Vincent nous dit, bon, j'aurais bien voulu aller voir Sardou, mais enfin, c'est inabordable. Tu veux que je te donne les prix?
Ah, bah oui, donnez-moi.
Regarde tout de suite.
Je vais en place d'or.
Je vais regarder.
C'est sans doute au moins 100 euros la place, à mon
avis. Ah, bah largement. Excuse-moi, moi je suis allée voir quand même, pardon. Mais les Rolling Stones, je me disais, tiens, j'ai amené ma fille, 80 ans, Mick Jagger, ça ne se voit pas. Enfin, je peux pas vous dire ça ne se voit pas parce que je n'ai même pas vu je n'ai même pas pu le voir tellement j'étais loin. 95 euros sur la pelouse de Longchamp.
C'est la même chose. À Michel Sardou, c'est la même chose. À partir de 95 euros.
Enfin, au moins, on verra.
Oui,
c'est
une info, ça veut dire que Sardou vaut autant que les Stones.
Sur un tabouret, j'ai pas vu la scène.
Et puis, je veux vous dire, c'est vraiment la dernière parce que, vu l'origine de vie, ils ont quand même bien vécu. Ils vont pas faire très long feu après. Ils vont vite s'effondrer.
On n'en sait rien. Vous savez, la médecine a fait des progrès.
Oui, je sais.
Regarde Mick Jagger, c'est vrai qu'il y a une vie saine comme
ça. Mick Jagger, c'est un truc de dingue.
Pas mort vivant, Mick Jagger.
Non, mais pas du tout. Mais il se trémousse comme à 20 ans. Mais c'est un
peut-être
truc
qu'il vit en France.
C'est moins cher pour une place sur le parking.
Il habite en Touraine.
C'est moins cher pour le parking à l'Arena Aix-en-Provence qui s'appelle le parking Michel Sardou. La place est à partir de 5 euros. Non, mais c'est vrai, c'est tout ce que je dis.
Non, mais Sardou, dans les régions, c'est à partir de 39 euros.
Oui,
Dans le Zénith de France, ça démarre à 39 euros.
C'est à l'Accord Arena.
Et ben nous irons tous à Dijon. Il y a un Zénith à Dijon.
Mais bien sûr,
ben super.
Place.
Et on dort tous chez Emmanuel.
Carrément. Il y a de la place.
Voilà.
On prend
un minibus.
On peut avoir le château de Laz avant de partir. Non, peut-être pas.
On va demander. Voilà, on va demander le bal des Laz pour faire plaisir, Perico. Et ben on l'a pas. Alors. On a
faire deux sondages. Tiens, sur notre compte Twitter, ouais. On est comme ça. Rémi, le premier, c'était le retour de Sardou et Polnareff. Est-ce que c'est pathétique ou génial?
Bah, c'est des personnalités qui sont quand même assez clivantes, on est d'accord. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est le pathétique qui l'emporte.
Ah bon?
Oui, normal.
Mais, merci les gens.
Pour 57% des personnes qui sont prononcées.
Ouais, c'est la marge d'erreur. Ouais, ça. Ouais.
C'est bien.
C'est la marge d'erreur. C'est la marge d'erreur. Consultation maison.
Si vous étiez plutôt au team Sardou ou team Polnareff. Bah ça donne quoi?
Bah 57. Non, bah moi j'avais pas cette question. Moi j'avais pathétique ou génial. Et je te dis c'est pathétique pour 57%.
Bon, et ben bah moi je vous donne la réponse à ce sondage. Sardou ou Polnareff, et c'est Sardou à 65%.
C'est pas étonnant.
C'est pas étonnant.
Et là je veux dire on n'est pas du tout à la marge d'erreur. Enfin, dans
tout
ça, un instant.
Objectivité journalistique.
Tout à fait. Dans un instant, RMC s'engage pour vous avec du nouveau dans le dossier Revolut. Cette banque qui refusait d'indemniser une victime de fraude à la carte bancaire. Et puis après il y aura les immanquables, les infos qui ne fallait pas rater aujourd'hui, et on ouvrira peut-être le coffre RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi, et dans cette dernière partie, on vous aide grâce à RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi,
RMC s'engage pour vous.
Et on est avec Élise Dangean aujourd'hui. Et Élise, vous revenez sur le dossier Revolut, cette banque en ligne qui refusait de rembourser sa cliente victime de fraude à la carte bancaire.
Ouais, et je pense que c'est sincèrement un des dossiers les plus difficiles à résoudre parce que Revolut, c'est une banque en ligne britannique basée en Lituanie avec un service presse en Espagne. Autant dire que pour avoir une réponse, il a fallu s'accrocher. On a fait le tour de l'Europe. Tout ça pour obtenir une enquête est en cours à la banque de Lituanie. En attendant, Revolut refusait toujours de rembourser les 15 000 euros de notre auditrice Alexandra. 15 000 euros qui s'étaient envolés au Brésil, direction le Brésil, alors qu'elle vit à Londres, souvenez-vous.
La carte est ici, je suis ici. La banque me dit qu'il n'y a pas de fraude, alors que n'importe qui voit les 23 transactions à la suite en 2 minutes d'intervalle, dont 20 avec exactement au centime près le même montant. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait ?
Aujourd'hui, ça nous aura pris près de 2 mois de mails, de coups de fil, de relance. Mais mardi matin, Alexandra a reçu le remboursement de l'intégralité de la somme. Mais attention, tenez-vous bien, en 23 virements.
En pleine discussion avec ma collègue, je reçois des notifications sur mon téléphone. Une notification, 2 notifications, 3 notifications. Et je peux simplement voir remboursement. Je n'osais plus toucher à mon téléphone en me disant si je touche à quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais donc j'ai tout de suite transféré cet argent sur un compte, sur une vraie banque. Donc je vais pouvoir reprendre le fil de ma vie et laisser cette mauvaise expérience de côté et simplement ne plus m'aventurer dans les banques en ligne.
Et 3 heures après, pour seule explication, elle recevra 23 mails, toujours, de la part de Revolut, qui disent tous la même chose, votre réclamation est valide.
Alors, c'est une super nouvelle, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé, Élise ?
C'est une histoire en plusieurs actes. Acte 1, Revolut dit qu'il n'y a pas de fraude, que les transactions sont conformes. Acte 2, la banque de Lituanie enquête. Elle dit aussi pas de fraude et renvoie vers Mastercard, l'opérateur de la carte d'Alexandra. Acte 3, on contacte donc Mastercard qui nous renvoie vers Revolut. Bref, on tourne en rond. En parallèle, Alexandra a fait appel à une avocate qui a mis la pression sur la banque en ligne. Et dernier acte, notre auditrice a été remboursée. Pourquoi Revolut a finalement changé d'avis, on ne le saura jamais. La seule chose qu'on sait, c'est que grâce à nous, Mastercard a contacté la banque en ligne Revolut et comme par magie, Alexandra a récupéré ses 15 000 euros.
Eh ben bravo Élise et bravo à RMC s'engage pour vous, hein, parce que c'est encore un dossier résolu.
C'est pas rassurant, mais bon.
Au moins ils ont remboursé, tu vois.
Voilà, mais il fallait connaître RMC, c'est dramatique. Ça veut dire combien d'autres cas où... Mais ne nier une fraude à la carte bancaire alors que c'est matériellement évident, c'est quelque chose d'aberrant.
Exactement. Enfin, en tout cas, notre auditrice a pu récupérer son argent et ça marche fort. Hein. Du côté de RMC, s'engage pour vous, on a un taux de réussite, je crois, qui avoisine les 99% à peu près. On parle de quoi lundi, Élise ?
Alors, lundi, on parle des chauffeurs VTC qui galèrent à obtenir leur carte, c'est-à-dire qu'ils passent leur examen, ils ont tout et ça prend des mois. Les délais se rallongent et on sort une info là-dessus lundi. Donc,
Et ce sera lundi, évidemment, 14h30 dans Estelle Midi. Merci beaucoup. Élise Dangean, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec la fin ce soir de Plus belle la vie. Et puis, on parlera également de l'arrivée du Beaujolais nouveau. Perico nous dira s'il est bien ou pas. Et puis, le rétro-pédalage du jour. Pas pas d'alcool pendant la Coupe du Monde au Qatar.
Le Beaujolais nouveau,
il n'y en aura pas du tout.
Le Beaujolais nouveau n'arrivera pas au Qatar.
Non, mais ça c'est peut-être une bonne chose. Enfin, ça faudra voir. Mais enfin, en tout cas,
pour le Beaujolais nouveau, c'est bon.
On en parlera dans un instant et puis peut-être qu'on ouvrira le coffre RMC pour la dernière fois de la semaine. À tout de suite.
J'espère.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Dans un instant, dans Estelle Midi, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On en parlera avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Pierre-Édouard Magnan. Mais tout de suite, c'est l'heure du coffre RMC.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC ?
Le coffre RMC.
Et je ne vous cache pas, Rémi, que j'ai une petite pointe au cœur. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier coffre RMC. Peut-être que ce coffre n'apparaîtra plus jamais sur ce plateau.
On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tout de suite, l'un ou l'une d'entre vous va être avec nous. Il a d'ores et déjà gagné un Samsung Galaxy M23 ainsi que le Visio projecteur portable qui permettra notamment de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde où vous le souhaitez. À partir de ce moment-là, bien, vous avez le choix. Soit vous gardez ce cadeau, soit vous y renoncez et vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar.
Et on va jouer aujourd'hui avec Dimitri qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Dimitri.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe. Bonjour.
Alors Dimitri, vous terminez très très bien la semaine. Parce que là vous avez un téléphone Samsung et un vidéoprojecteur.
Là, effectivement, mais on ne pouvait pas mieux terminer.
Je suis assez d'accord avec vous. Après, il y a un choix qui est devant vous, Dimitri. Ce choix, c'est d'ouvrir ou pas le coffre RMC.
Bah écoutez, on est sur le dernier jour, on est sur le dernier jour du coffre, je suis joueur.
Ouais.
On
va c'est déjà un beau cadeau ce que vous avez, Dimitri.
C'est très beau cadeau, effectivement, mais je suis gourmand. Vous savez, je suis gourmand.
D'accord. Vous ne serez pas déçu si vous n'avez pas la totale RMC.
Absolument pas. L'important, c'est de participer et de vous avoir au téléphone, surtout.
Oh là là. Bon, bah écoutez, si c'est que ça. Dimitri, on ouvre le coffre, pas de regret ?
Pas de regret, on y va.
Allez, on y va. J'ai bien envie qu'il gagne, Dimitri.
Ah oui.
Allez, 1205E, c'est le code.
T'as mal fait le code. Allez, calmement. On recommence
calmement. On peut encore changer d'avis, Dimitri, hein. je le refais.
On dirait que c'est quelque chose quand même.
On met le doigt là, oui. Voilà.
On ne rajoute pas.
Voilà, tout va bien.
Le coffre est ouvert, Dimitri. Bon. Dans ce coffre, il y a une boîte marron.
Comme à chaque fois.
J'ouvre cette boîte marron, Dimitri, et vous remportez des AirPods.
Parfait.
C'est très bien. Oui.
Ah, mais Dimitri, ben on aurait aimé que ce soit la totale RMC. Après, des AirPods, c'est super.
Bien sûr, c'est super. Ça ira très très bien. Merci, un grand merci à vous.
Eh ben de rien, Dimitri. Et puis merci d'avoir joué avec nous au coffre RMC. Le coffre RMC qui continue tout à l'heure. Hein,
exactement, c'était la dernière fois chez nous, mais ça continue jusqu'à ce soir sur RMC. Et vous pourrez jouer notamment tout de suite après Estelle Midi dans le Super Moscato Show. Pour vous inscrire, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Ah oui. Et on va tout de suite démarrer les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec la fin du jour.
Avec la fin du jour,
oula,
c'est celle-là.
Ça sert douce, hein.
Fin ce soir de la série Plus belle la vie, après 18 ans d'existence, l'ultime épisode est diffusé ce soir en prime time sur France 3. Épisode titré 7 mariages pour un enterrement, suivi d'un documentaire qui raconte la grande aventure de Plus belle la vie. En 2008, la série réunissait encore jusqu'à 6 millions de téléspectateurs chaque soir, mais elle était tombée à une moyenne de 2 700 000. 1000 téléspectateurs sur l'année 2021-2022.
Ça vous touche la fin de Plus belle la vie, Emmanuel ?
Alors, moi je suis désolée pour mon cousin qui est acteur dans Plus belle la vie, qui a intégré le casting en février malheureusement. Il joue Jean-Louis Bizet, l'adjuge en chef des sapeurs-pompiers qui va former Baptiste. Voilà, il s'appelle Christophe Hérault, mon cousin. Il est chanteur et acteur. Et donc je suis désolée pour lui, mais je suis désolée pour tous ceux qui adoraient. C'est quand même 18 ans de diffusion, 4665 épisodes, 20% de part d'audience, tu l'as dit. Et moi j'ai regardé une fois ou deux parce que mes parents le regardent. Mais d'une manière générale, c'était pas ma cam. Mais ce que je trouve fascinant dans ce feuilleton, c'est comment il a accompagné l'évolution de la société française. C'est quand même le premier feuilleton grand public à montrer un baiser entre deux hommes à une heure de grande écoute. C'était en 2005. Un personnage qui se découvre atteint du VIH, une mère porteuse, un mariage entre deux hommes, le premier à faire appel à un acteur trans pour parler de transidentité.
Oui, choses,
donc c'était, et puis en plus, ils avaient une manière de tourner qui était quand même assez formidable. Donc il y avait les tournages organisés de manière normale, mais dès qu'il se passait quelque chose d'un peu dans l'actuel, un peu chaud, par exemple une élection présidentielle ou quelque chose qui vient d'arriver, ils tournaient en quelques heures, ils écrivaient, ils tournaient des petites séquences qu'ils rajoutaient dans les épisodes déjà tournés. C'est pour ça qu'ils ont toujours collé à l'actualité finalement et qu'ils ont accompagné les Français pendant 18 ans en face des JT quand même, à faire ses yeux dans en face des JT. Donc voilà, mais vous savez que ça se termine pas complètement hein, parce qu'ils sont tellement une famille qu'ils vont créer Plus belle la vie 2.0 et essayer de continuer ça différemment.
Oui, alors là, on y fait moyen, ça va durer 3 mois. Mais ce sera remplacé par autre chose et finalement, les gens disent on adorait, et évidemment qu'ils adoraient, mais ça va être remplacé par une autre série, les gens regarderont une autre série.
Mais oui, mais c'est la vie de la télé, ça.
Bien sûr.
Surtout qu'ils ont inauguré, parce que du coup, depuis quelques années, maintenant, il y a d'autres séries, et sur TF1 et sur France 2, et pour le coup, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout amusant, tout le monde se foutait un peu de leur gueule et de France 3 quand ils ont lancé ça.
Au début,
c'est un truc ringard, etc. Ça a tenu 18 ans, effectivement, en face du JT, 2,7 millions, c'est quand même pas mal. Et je note que finalement, toutes les autres chaînes se sont mis à suivre.
En faisant chacune,
voilà, je leur souhaite, entre guillemets, la même carrière. Je suis pas non plus un grand spectateur de ce genre de choses, mais voilà, je trouve c'est, et puis après tout, il y a un moment où 6 millions de personnes peuvent pas être toutes ringardes, nulles et se tromper. Enfin voilà, c'est aussi ça qu'il faut toujours reconnaître.
Vous étiez client, Perico ?
Pas du tout, mais très admiratif, d'abord, du symbole sociologique et culturel de cette série et de l'engouement que les Françaises et les Français qui regardaient cette émission religieusement. Moi, j'ai connu des gens qui disaient « C'est plus belle la vie, tu n'appelles pas. »
C'est ça. Ça a participé au succès de Marseille aussi.
La vie s'arrêtait.
La montée des prix de l'immobilier et tout.
Comme je suis très vieux, j'avais connu ça avec Château-Vallon. Ça veut dire que la télévision française, ça veut dire que la télévision française, quand elle est sur des paramètres totalement français, épargnés par la mondialisation, c'est-à-dire par l'américanisation débile des programmes, fait des programmes qui font adhérer la population. C'était une série patriotique. Elle sera remplacée par une autre. Mais ça va créer un vide.
Ça faisait plaisir de pas avoir une série, vous savez, à Paris. Voilà, c'est une série qui se passait à Marseille.
Il a toujours été un grand théâtre.
Par exemple, dans Sous le Soleil, c'était Saint-Tropez.
Les producteurs et les chaînes ont eu raison. Elle meurt de sa belle mort dans la force de l'âge et elle restera un grand souvenir. Pas comme un truc que ils auraient dû arrêter. Ils arrêtent au bon moment avec les gloires de la télévision qui reste un instrument formidable, n'est-ce pas, Estelle?
Passons au rétro-pédalage du jour.
Les autorités du Qatar ainsi que la FIFA reviennent sur leur décision de vendre de la bière ou tout autre alcool aux supporters autour des stades de la Coupe du Monde. Une annonce faite qui est faite à 2 jours du début de la compétition, sans explication. Les seules ventes d'alcool pourront se faire dans les fan zones et dans les autres établissements autorisés, notamment les hôtels.
Ça s'annonce bien, cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, ils vont lâcher un peu de lest, pas du tout, finalement.
Non mais du coup, mais c'est vrai que j'avais hésité à y aller, bien évidemment. Et bon, ils annulent la bière, du coup j'annule mon billet d'avion. Non mais de toute façon, ils appliquent des règles qui sont les leurs. Enfin, je veux dire,
dans les loges, il y a du champagne, ça les gêne pas à ce moment-là l'alcool.
Ben, vous savez, c'est comme, si vous prenez ceux qui prennent l'avion, vous pouvez voir un certain nombre de résidents et d'un certain niveau de vie de ces pays qui boivent tranquillement de l'alcool et qui sont d'ailleurs habillés à l'européenne. Et puis une heure avant que l'avion atterrisse, je n'ai plus le nom de l'aéroport en Arabie Saoudite, tout le monde remet sa tenue. Et là, je vais faire exprès de dire tout le monde se déguise parce qu'à ce niveau-là, donc ça devient du déguisement. C'est plus un habit traditionnel. C'est du déguisement, et évidemment interdisent la consommation d'alcool sur leur territoire. Je veux dire, voilà, on avait les stades climatisés, on a eu probablement de la corruption pour l'attribution, on finit avec de l'hypocrisie.
Très probablement.
Je dis très probablement, mais je suis toujours
un prudent.
Mais enfin, voilà, je pense que je prends assez peu de risques d'une attaque pour diffamation. On finit avec l'hypocrisie. J'allais dire, le tableau est complet. Comme une note d'optimisme pour faire plaisir à celle, on espère que la France fera un beau parcours et fera mieux que la troisième place prévue par l'IA de notre ami Anthony.
Ouais, l'intelligence artificielle.
Moi, ça me rassure.
Pourquoi ?
Parce que c'est des valeurs fondamentales. Si l'islam se met maintenant aussi à déroger pour faire du marketing, on est revenu aux fondamentaux, ça c'est bien.
Mais enfin, vous pourrez quand même en voir.
Moi je suis catégorique. Ça. Les normes, c'est les normes. La règle du jeu, c'est la règle du jeu. Il n'y a pas d'alcool dans les pays musulmans, il n'y avait pas de raison, cette dérogation était une honte. On revient à des fondamentaux.
Mais ça va. Non mais là, vous vous rendez compte de ce que
non.
vous
dites là, là. Qu'ils assument au moins ce qu'ils sont.
D'accord, je comprends.
Vous vous rendez compte de l'entorse qu'ils faisaient, voilà.
L'entorse qu'ils faisaient, c'est quand même pas aberrant de pouvoir boire de l'alcool.
C'est illicite.
Hein,
c'est illicite.
Chez eux, c'est illicite. Mais il l'avait autorisé,
La licitude n'est pas négociable. Voilà, point final.
Si, c'est négociable.
Et puis ça fera du bien aux gens de ne pas boire de bière parce que le bon du football, c'est quand même.
Non, mais Perico, mais en fait, non, mais ça veut dire. Là, c'est un rétropédalage sur ça. Vous vous rendez compte de ce que ça.
Non,
ça,
non mais
c'est
un symbole.
Là, on parle d'alcool, c'est un symbole.
La dérogation fait un accident.
Il y a comment ils traitent les homosexuels. Si, Perico, c'est ça.
Parce que là, cette décision intervient deux jours avant le début de la compétition. Qui nous dit que dimanche ou lundi ou dans la semaine prochaine, on va pas avoir de nouvelles règles qui vont changer et qui pourraient être restrictives sur les droits humains, sur les
matières sûres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'était juste la fin de ma question. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas?
Ah bah on sait, on va jouer au foot.
Non.
Bah quoi?
Non, on va chercher du fric et on va se soumettre. C'est un acte de soumission à une dictature financière.
Ah ben, on s'est soumis à une dictature financière il y a 12 ans quand on a quand on leur a filé.
Donc on vient de pas se plaindre d'un acte de la bière où il y a plus de.
Non mais c'est quand même étonnant cette compétition parce que depuis qu'on en parle, on parle de tout sauf de foot, quasiment. Ça va prendre le dessus, on est d'accord.
Mais bien sûr, ça va prendre le dessus.
Mais ça va prendre le dessus au bout d'un moment. Mais c'est pas, en général, c'est pas, on parle des brassards arc-en-ciel de l'équipe de France avec le capitaine qui veut pas le porter. On parle de l'alcool. On parle de tout un tas de choses qui ne sont pas du football. Donc ça dit bien quand même la puissance de symbolique de cette compétition-là, spécifiquement au Qatar. Quoi.
Oui, c'était pareil sur les JO de Pékin et c'était pareil sur les JO de Sochi.
Oui, mais enfin, à Pékin, on pouvait boire un coup quand même. Qu'est-ce que donnent des supporters non avinés? Est-ce qu'ils sont aussi supporters que ça?
Mais arrêtez, tous les supporters que aviné, ça non, tient, bah, si on parle de vin, tiens, l'arrivée du jour.
D'ailleurs, parlons de vin. Le Beaujolais nouveau est arrivé hier soir. L'an passé, il a représenté quelques 18 millions de bouteilles, soit 21,5% de la production totale du vignoble de cette appellation, le Beaujolais. Mais cette année, les aléas climatiques ont pénalisé la production. La quantité sera inférieure de 20% à la moyenne des 5 dernières années.
Oui, bah.
Perico, vous l'avez goûté, ce Beaujolais?
Oui.
Il est comment? Est-ce que vous allez le sortir? Ah, ça, je déteste tous les ans. Oui, il a un goût de fraise, de banane, machin. C'est insupportable.
Alors, j'en ai goûté de très mauvais, d'épouvantable. Oui. J'en ai goûté de merveilleux.
Ah bon?
Depuis la nuit des temps, je vous annonce solennellement que depuis qu'on fait du vin sur Terre, tous les vignobles, Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-Rhône, font de très mauvais vins et en font aussi de très bons. Moi, j'ai plutôt une prédisposition pour les bons vins et j'ai goûté cette année un Beaujolais nouveau, délicieux, pas très nouveau au sens primeur, vous savez, il faut que ça soit fruité, gouléant, souple. Or, le réchauffement climatique fait que le degré alcoolique depuis une quinzaine d'années monte.
Aïe.
Les grands Beaujolais nouveaux que j'ai connus quand j'étais adolescent, c'était 9, 10, 11 degrés. Et on les buvait, j'allais dire, jusqu'à plus soif. Là, aujourd'hui, c'est des vins plus charnus, plus alcooleux. Ils ont moins ce côté primeur, frayeur, mais j'ai goûté quelques échantillons qui étaient sublimes et je peux vous dire que la ferveur, ça fait quand même 2-3 ans que ce rituel avait pris un pet. Il s'est moralisé. J'allais dire, les canards boiteux et les brebis galeuses ont été, qui ont profité du Beaujolais nouveau pour faire du fric dans le négoce en expédiant. On est revenu à une éthique et une moralité. Et là, le Beaujolais nouveau fait par produit élaboré par les vignerons du Beaujolais avec le gamay, le cépage du terroir fait dans les règles de l'art. C'est un vrai bonheur et c'est un vrai rituel, j'allais dire, purement français où on se fait du bien.
Et ça se consomme évidemment avec modération.
Bien énormément sûr,
de modération.
Rémi,
bah, c'est un peu moins le Beaujolais
nouveau.
C'est
justement parce que je vais vous expliquer pourquoi le Beaujolais nouveau a un goût de banane. C'est justement parce que c'est ce cépage-là, le gamay, qui supporte très bien la macération carbonite et ça donne donc un petit goût de banane. Et vous savez pourquoi on l'appelle nouveau, ce Beaujolais? Tu le sais, toi, Perico?
Alors d'abord, on dit primeur là-bas.
Alors, on l'appelle nouveau parce qu'en 1951, ils ont interdit de commercialiser les vins avant le 15 décembre. Et les vignerons là-bas, ils n'étaient pas contents du tout. Donc, ils ont tapé du poing sur la table et les syndicats ont réussi à récupérer le fait que ce vin-là, en tout cas, aura le droit de sortir avant le 15 décembre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle nouveau.
Allez, on va terminer avec un sujet pour Pierre-Edouard. Tiens, la menace du jour.
La menace du jour. Twitter joue peut-être sa survie. Des centaines de salariés ont démissionné hier au lendemain d'un ultimatum lancé par le nouveau propriétaire Elon Musk qui a demandé à ses employés de choisir entre se donner à fond inconditionnellement et partir. La moitié des 7500 employés du groupe avaient déjà été licenciés il y a 2 semaines par le multimilliardaire.
On voit que les États-Unis et la France, c'est pas le même droit du travail. Hein.
Ah non, là pour le coup, c'est comme dans les séries américaines, c'est-à-dire quand on dit vous êtes viré, vous sortez, puis on part avec son carton sous le bras, ce qui n'existe, Dieu merci, pas en droit français. Après, je vais être un peu grossier, moi je suis très content que des salariés collectivement disent merde à un connard.
Oui.
Moi je trouve ça vachement bien en fait. Et donc je leur souhaite évidemment beaucoup de courage.
C'est pire qu'un connard, c'est un gourou.
Parce qu'il part, alors on peut délayer ce qu'est ce monsieur. Là, ce qui est bien, c'est que pour le coup, ça se voit et que un certain nombre de personnes vont arrêter d'avoir des étoiles dans les yeux devant ce genre de personnage, parce que, en tout cas, nous, en France, je sais pas ce qu'il en est, mais ça commence à se voir, ça commence à sortir, on commence un peu à gratter, ce qu'il y a sous le personnage, donc effectivement, ça, c'est plutôt pas mal.
En tout cas, c'est
peut-être en Chine, comme ces Tesla, qui ne l'oublions pas, sont pour l'essentiel
c'est
le fabricant en Chine,
ce qui
le rend très gentil
c'est
avec
peut-être
la
mort des gars-femmes.
Oui,
voilà.
On n'y est pas encore. Oui, on n'y est pas encore. C'est la fin d'Estelle Midi. Merci à tous, les amis. On va tout de suite être avec Vincent Moscato. Salut, Vincent.
Comment ça va, Estelle?
Bah bien et toi?
Mais ça va pas mal, vous avez pas parlé du Gaillac nouveau quand même, monsieur Péricot?
Non mais
ils m'ont pas laissé la parole, ils m'ont pas laissé le temps d'en parler.
Il fallait nous en apporter.
T'as été censuré.
On en amènera au Qatar. On en amènera au Qatar du Gaillac nouveau.
Taisez-vous.
Ils vont comprendre quel bon qu'on chauffe.
Taisez-vous. Allez-y Vincent.
Écoute, alors nous on va. Attends, je cherche mon truc, oui. Alors on est là. On est là.
Ah ben
là
c'est mieux, oui.
C'est sur Internet. La France champion du monde, est-ce que vous y croyez? Vous en avez parlé.
Non.
On finirait troisième, oui. Paraît-il, selon qui, je ne sais pas qui. Là. Ouais, bon, enfin, bon, on ne sait pas qui. En parlant de la France, on donnera des nouvelles de Benzema, on parlera de Giroud. Parce qu'hier soir, c'est un peu fait mal. Alors attention, blessure de. C'est retourné le pouce, c'est pas très grave.
Oui, bon.
Est-ce qu'il doit rester sur le banc ou être titulaire? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est pas Benzema dans quel état il est.
Ben, il n'a pas l'air bien, là.
Et il n'a pas l'air au mieux. Puis le rugby, attention, on affronte les Japonais. J'avais dit Banzai, c'est pas pareil.
Oh
en
non,
2017,
mais...
ils avaient fait match nul. Match nul, je vous répète, on a fait match nul contre les Japonais.
Oui, 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 oui.
Ils ont une équipe, mais même pas, mais Gaillard, c'est fini là, les Japonais qui prennent 50 points. Tu vois, qui à partir du soleil levant, mais c'est costaud, ça tabasse, ça rentre dans la même. Techniquement, ils amènent une fraîcheur, quelque chose de nouveau,
de un nouveau,
peu comme ce
Beaujolais,
comme ce kayak. Voilà. Qui nous... Le Beaujolais, parfois, il faut quand même une gorge
faut
en zinc.
Faut le digérer.
C'est quand même.
Faut avoir un RTT le lendemain, quoi.
Enfin, ça laisse des traces. Ouais. Et pas que. Vous voyez ce que je veux dire, là.
Ok, non, on ne voit, on l'a pas.
Tu es gouléant, Vincent. Tu es gouléant.
Je suis gouléant,
oui. Ok, bon. Eh ben, là, il y a un très bon super moscato show qui se
profile.
C'est formidable, formidable. Oui, et moi, je vais partir en week-end, donc je vais vous dire au revoir. Voilà, on se retrouve lundi, midi, 15h. Dans Estelle Midi.
C'est mal parce que souvent, moi, j'ai un goût de carotte. Et pour moi, le lendemain, quand tu t'assois, t'as mal.
Ok, bonne émission, Vincent. Il est très en forme,
coupez-lui
son micro quand même.
Le tard en avant, on va pas en
mettre. Oh là là, ok. Bon allez. Et bon week-end. Bonne émission.
Ciao.
Salut Vincent.
RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
RMC. Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.